Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Avec moi autour de la table cette semaine, Robin, bonjour.
Bonjour Alexis.
Et bonjour Lisa.
Salut Alexis.
On va revenir ensemble sur les sorties de ce 29 mars 2023 avec Shazam, la rage des dieux, notamment, nouvelle adaptation de chez DC Comics et The Lost King avec Sally Hawkins et Steve Coogan. Mais avant ça, on va parler de Je verrai toujours vos visages, puisqu'on va accueillir dans quelques instants Jeannery et Elodie Bouchèze pour nous parler de ce nouveau film. Jeannery, on la connaît pour Pupille notamment, qui était sortie il y a quelques années au cinéma. Ce film-là, Je verrai toujours au visage, c'est un film qui s'inscrit dans cette lignée. Qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans ce nouveau projet-là?
Bah effectivement, ça s'inscrit dans cette lignée, notamment par rapport à tout le travail de forme ouais. que fait Jeannery sur ce nouveau film. Donc on a, même si on en parlera sans doute avec elle tout à l'heure, ce côté, moi je trouve, presque faux documentaire ouais. qu'on pourrait découvrir et qu'on a devant les yeux. Faux documentaire parce que, à mon sens, c'est très spontané. Dans les dialogues, dans l'écriture, dans la façon de filmer. On assiste à des scènes, mais c'est très intéressant, hein, qu'on ne croit pas que ça soit long.
C'est vraiment prenant comme histoire. Ouais.
À des scènes qui prennent le temps de laisser parler les personnages, et ça, c'est un style que j'aime beaucoup, surtout quand c'est bien fait, et là, c'est totalement maîtrisé.
Puisque c'est un film qui nous emporte et qui nous emmène dans un sujet qu'on ne connaît pas forcément, celui de la justice restaurative.
Bah, écoute, on était en droit, Lisa, et je n'en avais jamais entendu parler.
Alors, en cumulé, combien d'années de droit en cumulé, vous deux?
10 ans.
Voilà.
Cumulé,
bien sûr. Ouais.
Alors, genre, dis-donc, t'as fait ta cinquième année.
Eh oui. C'est super. On peut vous laisser, on peut faire un hors-série spécial droit, ça sera nickel. Mais du coup, voilà, sur la justice restaurative, on va en parler avec elle dans un instant, mais c'est un sujet, c'est une plongée dans un sujet comme elle l'avait fait avec le milieu d'adoption, avec ce secteur-là de si je peux utiliser ces mots-là, mais avec Pupille, il y a quelques années. C'est un film très fort qu'elle nous propose ici, cette année.
Très, très fort. Comme vous le rappelez très bien, c'est un sujet social et sociétal, finalement, qu'on connaît peu. Et le film nous l'explique très bien. Il y a vraiment une maîtrise de son sujet de bout en bout. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au moment où on nous avait présenté le film, j'avais un peu peur, c'était un peu ma réserve, que ça soit peut-être un peu trop mélodramatique. Ouais. Et en fait, le fait qu'il y ait ce côté très, très recherché, avec des recherches, le côté très documentaire, comme tu le rappelles, Robin, fait que ça s'équilibre très bien entre l'émotion des personnages, d'ailleurs qui est composé d'un casting incroyable, ce film aussi.
C'est ça, on peut rappeler Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos, Leïla Bekhti.
Miu Miu, effectivement.
Un casting assez fou.
Oui, et puis chacun sa trajectoire. Elle prend le temps de filmer à la fois ses huis clos, à la fois ses respirations, à la fois ses personnages, à la fois les aidants. Donc c'est vraiment un film choral, très bien mené en fait.
Et effectivement, c'est pas du tout mélodramatique, comme on disait. Mmh. Et ça, l'autre élément dans le film, l'autre aspect qui m'a marqué, c'est qu'on est plongé dans le côté administratif de la procédure. Ça va avec l'aspect documentaire, comme avec Pupille avant, on suit les personnes qui travaillent dans ce milieu-là, avec sans doute une façon de représenter la réalité qui me semble assez fidèle.
Et elle le fait aussi avec beaucoup d'humour. Je trouve que le film est ponctué d'humour, comme on peut en trouver dans n'importe quelle conversation et dans n'importe quel sujet, et je trouve que c'est très très bien amené.
Et sans jugement en plus. C'est ça. Il n'y a vraiment pas vraiment de morale là-dedans, donc non, c'est un beau film.
Je verrai toujours vos visages chez notre label L'Autre Regard et on rencontre tout de suite Jeannery et Elodie Bouchèze pour nous en parler. Jeannery, bonjour.
Bonjour.
Et Elodie Bouchèze, bonjour.
Bonjour.
Vous venez nous parler donc de votre nouveau film Je verrai toujours vos visages chez notre label L'Autre Regard de la semaine. Comment on se sent à l'approche de la sortie de ce nouveau bébé ?
Bah, traqueuse, moi, assez traqueuse, toujours, moi, de toute façon. Un peu fébrile, mais en même temps, voilà, on est dans la dernière ligne droite, on accompagne le film, voilà, partout en France, on présente le film à la fois au public, à la presse, aux professionnels de la justice restaurative, enfin bon, c'est le grand chelem. Et ça se passe bien, les signaux, ils sont chouettes, donc, mais moi, il en faut beaucoup pour me rassurer, beaucoup plus que ça.
Vous serez rassuré aux 10 millions d'entrées et aux 5
qui sont attendus, qui sont prévus.
Mais justement, je voulais revenir sur ces sujets forts que vous abordez dans vos films. On pense bien sûr à Pupille et aujourd'hui à ce nouveau film, Je verrai toujours vos visages. C'est des sujets qui sont peut-être pas très connus dans l'inconscient collectif auprès du grand public, qui font pas nécessairement l'actualité. Comment vous vous emparez de ces sujets-là, comme celui d'aujourd'hui, de la justice restaurative?
Ben, je m'en empare. Pour Pupille, c'était effectivement le... pas tant l'adoption, parce qu'il y a eu beaucoup de films sur l'adoption, mais sur la remise d'un enfant à l'adoption et l'accouchement sous X et les protocoles de prise en charge de ces bébés-là, très particulièrement. C'est vrai que c'est pas très connu. Je m'en empare comme des terrains de jeu de cinéma, en fait. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui me motive en premier lieu. C'est parce que j'y vois un cadre fort de cinéma, de l'opportunité d'écrire des beaux personnages, des bonnes partitions pour les acteurs, que je décide de m'en emparer. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça me demande, mais ça me passionne, donc c'est vraiment pas contre-cœur que je le fais, mais ça me demande beaucoup de documentation pour bien comprendre, parce que je suis comme les autres gens en France, je les connais pas, ces dossiers-là, ces sujets-là. Donc je vais les étudier beaucoup, beaucoup pour me remplir. Et après, ça libère mon imaginaire et j'y vais, quoi.
Ça passe par quoi, du coup, tout ce travail en amont de recherche ?
C'est des entretiens, globalement. Après, je me rencarde un petit peu, là, pour la justice restaurative. J'ai lu tout ce que je pouvais lire en termes de documentation sur qu'est-ce que c'est que cette justice, d'où elle vient, quels sont les principes fondateurs, quelle philosophie irrigue ces dispositifs, ces protocoles. Et après, je vais les étudier dans le détail sur ce qui est fait en France. Mmh. J'étudie les deux dispositifs, les deux mesures de justice restaurative qui sont le plus mis en place en France, à savoir la médiation et les rencontres détenues victimes ou condamnées victimes. Et ça, je le fais en rencontrant des gens. C'est un petit peu comme pupille, c'est vrai que je vais pas en immersion dans les trucs, je redemande aux gens de se raconter, c'est des entretiens, j'accumule des entretiens comme ça pour essayer de comprendre au mieux.
Et est-ce que du coup, du fait de ces entretiens, vous avez écrit le scénario, vous êtes inspiré de l'histoire de vraies personnes dont vous avez eu le récit?
Oui,
ou
ça peut
arriver. Au final, c'était plus des inspirations et vous avez pioché peut-être à droite à gauche?
En fait, c'est comme le reste de l'écriture, c'est toujours une grosse ratatouille, hein, l'écriture. On s'inspire de gens qu'on rencontre, des gens qu'on a rencontrés, des gens qui n'ont rien à voir. Pourquoi tout d'un coup tel personnage va se mettre à dire oui et pas oui? Bah, parce que moi j'ai ma maraîchère qui dit oui, donc ça, elle me fait rire, elle me dit tout le temps oui, oui. Bon, bah ça, je vais le mettre dans un personnage du film de la justice restaurative et Jean-Pierre Darroussin, il va se mettre à dire oui. Donc c'est effectivement inspiré de quelqu'un parce que ça me fait rire dans le... C'est un petit détail qui me plaît dans le présent, dans autre chose. Mais c'est toujours une fusion, en fait. Il y a une partie de moi déjà dans tous les personnages. Il y a évidemment mes obsessions partout. Et évidemment des gens que j'ai rencontrés très factuellement. Moi, je ne sais pas ce que c'est que de faire du homejacking, donc la personne que j'ai rencontrée qui lui en a fait m'a raconté ce que c'était, quelle était sa démarche, lui aussi sur des petits protocoles. Donc évidemment que son état d'esprit m'intéresse. J'essaie de comprendre la logique de ceux qui passent à l'acte, la logique des victimes. Il y a évidemment un personnage qui est incarné là, en l'occurrence par Leïla Bekti, qui m'a été directement inspirée par une personne que j'ai rencontrée et qui a participé, vraiment une victime qui a participé à un cercle. C'est un mélange, voilà. Il y a des personnages qui sont bâtis vraiment de toutes pièces et qui ont rapport qu'avec moi et mon imaginaire, puis d'autres qui sont inspirés, bien sûr.
Et Elodie, vous étiez rencontrée sur le tournage de Pupille, précédent film de Jeanne. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce projet-là en particulier quand elle vous l'a présenté, votre personnage et l'arc de celui-ci ?
Oui, ben plein de choses. C'était déjà formidable pour moi que Jeanne me confie ce rôle merveilleux dans Pupille. On a fait un travail spécifique pour Pupille. Après, on a accompagné le film ensemble. On a appris à se connaître. Et puis, quand elle m'a proposé de me faire lire ce nouveau scénario, déjà la perspective d'éventuellement pouvoir continuer le travail ensemble et le temps passé ensemble à chercher, c'était formidable. Et malgré tout, je ne serais jamais partie sur quelque chose qui ne m'aurait pas parlé ou dans lequel je ne me serais pas projetée. Et c'est vrai que j'ai été, comme je crois tous les acteurs du film, absolument bouleversée par, encore une fois, comme c'était le cas pour Pupille, par l'écriture. Très à la fois spécifique et ultra émouvante de Jeanne. Et même si c'était un personnage qui était plus compliqué pour moi à appréhender que celui de Pupille, j'étais évidemment tellement contente de cette perspective de continuer à avancer avec Jeanne.
Mais justement, vous parliez un peu de l'écriture et tout à l'heure du travail de recherche en amont pour préparer le film. C'est quelque chose ça, qui nous a marqué quand on l'a découvert, et même par rapport à Pupille, cet aspect presque, on doit vous le dire souvent, un petit peu de documentaire fictionnel, quasiment. On a l'impression d'assister à des entretiens qui pourraient être filmés presque dans la vie de tous les jours. C'est très spontané, très naturel. Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez en amont lorsque vous préparez le film ou au final, un élément qui revient grâce aussi aux comédiens, aux comédiennes et à l'atmosphère du tournage qui peut se préparer ?
En fait, pour moi, c'est absolument pas du tout des films documentaires, mais c'est des films très documentés, pour le coup, ça c'est vrai. Parce que je serais très 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 mal à l'aise de m'emparer d'un sujet sans le comprendre, sans le connaître bien. D'ailleurs, je serais en difficulté tout de suite. En fait, on peut pas traiter de quelque chose comme ça sans l'étudier à fond, ou alors il faut pas aller raconter ça. Mais après, ce que vous racontez de spontanéité, de naturel, bah, c'est le travail qu'on fait avec les comédiens. D'abord, il y a l'écriture. C'est vrai que moi, j'essaye de faire quelque chose qui sonne bien. C'est vrai que je leur laisse pas le choix des mots qu'ils vont dire. Donc ça, de toute façon, ça c'est mon choix à moi. Je veux qu'ils disent ces mots-là, dans cet ordre-là, avec cette ponctuation-là. Et je prends que des comédiens qui sont capables de se plier à ce cadre qui est un petit peu raide. Mais tous le font. Donc, je prends des gens qui savent le faire. Mais après, oui, bah, c'est là où ils sont dingues. C'est qu'ils viennent incarner tout ça, donner vie à tout ça. Et c'est vrai que demain, on va présenter le film à l'équipe qui n'a pas vu le film encore. Et je vais leur dire la même chose que lors de la projection équipe de Pupilles. C'est-à-dire, on me parle beaucoup du film comme étant presque un documentaire. Nous, on sait, vu qu'on s'est fait chier pendant des mois à recréer des trucs, que c'est pas le cas. Mais puisque les gens s'y retrouvent et y voient du documentaire, c'est parce que les gens de cinéma ont bien travaillé. Donc vous avez bien bossé, sinon les gens diraient ça sonne faux, c'est pas ça, etc. Donc, mais c'est vrai qu'en particulier pour le jeu, puisque moi c'est la pierre angulaire de tout, c'est mon plaisir et le travail des acteurs est fantastique parce qu'ils donnent vie à cette matière qui est écrite et qui est un peu figée quelque part.
Ouais. Ça me fait penser, vous avez écrit en ayant en tête déjà les comédiens et comédiennes qui allaient incarner les rôles.
Ou certains, oui.
D'accord.
Oui, bien sûr, c'est le cas d'Élodie, le cas de Gilles, Gilles Lelouch, Miu Miu, Sulian Brahim, Biran Ba, Leïla Bekti. La plupart, sauf Leïla, j'avais déjà travaillé avec eux et c'était un plaisir pour moi de me dire qu'on allait de nouveau aller travailler ensemble, explorer des choses ensemble. Et puis après, il y a ceux qui arrivent au fur et à mesure de l'écriture, qui finissent par s'imposer. On a deux, trois idées en tête, et puis ça varie. Puis au bout d'un moment, il n'y en a plus qu'une qui reste. C'est le cas d'Adèle, vraiment, qui s'est imposée dans ma tête. Parce que moi, j'ai écrit pendant après plus d'un an toute seule. C'est dans ma tête que ça voyage. Oui. Et puis après, il y a ceux qui arrivent en toute fin de parcours. Et le dernier étant Fred Testo, qui est arrivé vraiment à la toute fin du parcours. Et en fait, quand on a parfait, quand on finit son casting, c'est comme si on était enfin arrivé à bon port. Il y a quelque chose de l'ordre de l'errance un petit peu, ou du parcours. Et à la fin, ça y est, on a tout le monde et on s'aperçoit qu'on n'aurait pas pu faire mieux, en fait, que ce casting. C'était le bon dès le départ. Alors que parfois, ça prend du temps avant d'arriver au bon acteur.
Enfin, puisqu'on parle du casting, je voulais aussi savoir, parce qu'il y a un peu ce côté, donc la médiation avec, on va dire, ces six acteurs. Enfin, du coup, d'un côté, Dali Ben Salah, Fred Testo, de l'autre, par exemple, Leïla Bekti, Gilles Lelouch. Et y a,
ça, c'est les rencontres des victimes. La médiation, c'est entre Chloé et son frère.
Voilà, bah, ouais. Du coup, on va dire, le groupe de six et vous, du coup, votre duo avec Adèle. Et je voulais savoir, du coup, comment vous aviez travaillé toutes les deux en tant qu'actrice, et comment ça s'était passé sur le tournage exactement, justement
avec Adèle.
Avec Adèle, ouais, tout à fait.
Ça s'est passé très simplement. Il y avait la donnée de départ qui était valable pour nous tous, à savoir de connaître parfaitement son texte. Alors, elle et moi, on est arrivés sachant notre texte. On a tourné ces scènes de rencontre ensemble sur 5 jours, dans l'ordre chronologique. Donc il y a quelque chose aussi qui a pu se déployer lors de la première scène qu'on a tournée. On ne se connaissait pas, Adèle et moi, ou très peu.
Je n'avais pas fait de lecture avec elles deux. D'accord. En fait. Donc on avait juste déjeuné ensemble, toutes les trois, mais elles n'avaient jamais travaillé le texte ensemble.
On s'est découvert dans le jeu. À ce moment-là, j'ai entendu ces mots qui sont à la fois les mots de Jeanne et ces qui étaient devenus ses mots à elle, dans l'instant du tournage. Et après, Jeanne nous a guidés et on a avancé main dans la main, toutes les trois, à chaque instant, avec Jeanne comme guide qui nous recadrait, qui nous apportait toutes les subtilités qui étaient nécessaires à nos échanges. Donc ça s'est passé très simplement. Adèle, c'est quelqu'un comme moi. Enfin, j'ai l'impression qu'on a un peu la même manière de travailler, assez droite. Voilà, on n'a pas besoin d'explications psychologiques à tout va. On écoute ce que veut notre metteur en scène et puis on essaye de faire au mieux, dans une grande simplicité, je crois.
Et d'un point de vue de mise en scène, justement, c'est quel exercice de montage un film comme celui-ci ? Parce que c'est un film, justement, qui raconte, alors, entre guillemets, deux histoires, du moins deux oui. points de vue, un peu comme dans Pupille, où on avait ces différents points de vue-là. Comment vous retrouvez sur le banc de montage en disant, ben, maintenant, je me retrouve avec toutes ces images-là ? Alors, j'imagine qu'il y a un scénario de base qui vous permet de structurer un peu le tout, mais,
bon, bah, carrément,
mais comment ça se passe ?
Oui, bah, en fait, ça a été long. Parce qu'aussi, il y avait beaucoup de matière, parce que le cercle de rencontre, on l'a tourné à trois caméras.
Oui.
Donc ça fait d'autant plus de matière, ça fait beaucoup de matière, avec des monologues qui parfois duraient 7, 9 minutes, plus des scènes qui duraient 15 minutes. Enfin bon. Et à l'intérieur de ça, bah, il faut trouver les bonnes prises. Moi, je suis très... Avec mon monteur, on est très, 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 très précis sur... parfois, je peux mélanger trois prises pour une seule phrase à l'oreille. Enfin bon, c'est vraiment une dentelle. Et une fois qu'on avait monté le scénario entier, bah, après, il a fallu couper. On a énormément coupé. C'était un scénario qui était trop long.
Est-ce que vous êtes retrouvé avec une première version de combien de temps ?
Je crois que la première version, elle faisait 3 heures, un truc comme ça. Mais... en tout, on a énormément coupé. En fait, on a sculpté dans la matière. C'est pas tant que c'est qu'on a coupé un peu partout, des séquences partout, à l'intérieur des séquences, à l'intérieur des monologues, à l'intérieur. Il fallait tailler. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est de la taille, en fait, pour qu'enfin la sculpture ait des endroits plus saillants, que la forme soit plus précise. Il y avait ce truc de rythme, mais ça demande un temps. C'est un temps qui est incompressible. On peut pas dire bon, maintenant, je vais couper 1h15 de film du jour au lendemain. On coupe un peu, puis on coupe encore, puis on coupe encore. Donc c'est en entonnoir comme ça, jusqu'à arriver à ce qui nous semble être une forme, une forme très précise qui a le bon rythme avec le respect des silences et des temps. C'est pas dur, c'est long. Voilà.
Et justement, puisqu'on parle de la mise en scène, est-ce que lorsque vous êtes devant vos images, vous vous trouvez pas un peu dans la même position que le personnage d'Élodie ? Avec deux parties qui doivent parler, pas forcément les juger. Enfin, est-ce que c'est difficile de ne pas prendre parti, justement, et de laisser autant la parole aux deux groupes ?
C'est vrai que je suis très, très, très bipartiale dans le cercle de rencontres. Pour le coup, les deux logiques m'intéressaient, les points de vue de chacun, côté auteur, côté victime. Pourquoi ça allait réparer telle personne ? Qui ça allait toucher à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'on peut opposer à quelqu'un qui dit ça ? Moi, j'ai essayé de comprendre la logique de tout le monde. Par contre, côté médiation, j'ai fait un choix assez tranché de, justement, d'être que dans le point de vue de Chloé, pratiquement, en donnant juste ce qu'il fallait d'infos sur le parcours du frère, pour savoir où lui en est. Mais sinon, c'était déjà un choix assez, assez drastique. Après, moi, j'aime beaucoup mes personnages. Et j'ai beaucoup de mal à leur trouver des défauts à l'écriture. Il faut vraiment que je cherche tout ça. Donc, j'ai beaucoup d'amour pour les personnages. Donc, généralement, je ne les juge pas. Même quand ils se conduisent mal, je ne peux pas m'empêcher de les aimer, quoi.
On parlait de Chloé, du coup, de la confrontation avec son frère. Je voulais savoir si, est-ce qu'à un moment, cette scène... est-ce que dans le scénario, vous êtes toujours dit j'aurai cette scène à la fin de confrontation finale ou pas du tout, au contraire
Je fais ce film pour la confrontation finale.
D'accord, ok.
Je fais Pupille pour la rencontre avec le bébé.
Mmh, okay.
Pour moi, c'est très très important que cette scène de fin arrive, que je la pense comme le climax du film, même si pour moi le film a plusieurs climax, en tout cas le climax de l'histoire de Chloé qui a un parcours très ascensionnel comme ça, c'est cette scène de fin. Après, moi, je fais tout en place, c'est à l'envers en fait, je sais que je vais terminer par là. Donc après, il faut que je écrive le parcours qui nous mène là, avec la plus grande attente, bien préparée, pour recevoir bien cette séquence, pour qu'elle ait autant d'impact que moi, j'imagine qu'elle pourrait en avoir.
D'accord.
Vous partez un peu de cette fin, finalement, pour remonter, comme vous nous disiez. Est-ce que c'est aussi une réflexion qu'on a pu avoir en voyant le film ? Vous avez hésité à montrer la vie des personnages en dehors de ce cercle ? Ou de, justement, tout passer par les dialogues et par la façon dont ils racontent leur vie aux autres personnages ?
C'est sûr qu'il y avait ce truc sur le récit que moi j'adore. J'adore les documentaires pour le coup, j'adore les podcasts, je suis un peu addict. Donc écouter des gens se raconter, je sais très bien que je préfère les entendre et les voir se raconter plutôt que d'avoir des espèces de reconstitutions un peu miteuses, illustratives et tout. Mais je tremble un peu au moment de faire ce choix. J'espère que ça va tenir. Très vite, je me dis que ça va tenir. Aussi parce que je vois en thérapie la série exactement au même moment où j'écris le film et où je me dis, OK, ça tient. J'ai absolument pas besoin de voir la vie de machin, de bidule. Machin. Et puis, c'est vrai que je me suis posé la question 2 minutes de me dire, est-ce que je fais une série ou un film ? Vu qu'évidemment la série permet de déployer beaucoup plus un peu tout, et j'aurais très bien pu rentrer plus dans la vie d'Élodie, rentrer plus dans la vie de Gilles Lelouch, voir sa fille, voir son camion, voir son... Mais très vite, je me dis que non, que j'ai envie de faire du cinéma, mais du coup, je ferme beaucoup de portes. Des portes qu'on ouvre grandes ouvertes, voilà, pour les séries.
Vous citez en thérapie, mais du coup, est-ce qu'il y a eu aussi peut-être d'autres films ou d'autres œuvres, séries ou cinéma qui vous ont aidé dans votre travail, mais que ce soit en tant qu'actrice ou en tant que réalisatrice ? Des œuvres un peu de référence
Moi, il y avait clairement 12 hommes en colère, quand même, qui est comme un huis clos, voilà, dans un vrai huis clos, pour le coup, parce que nous, c'est un faux huis clos. Hein,
Oui, il y a un enjeu, quand même, dans les huis clos que vous filmez. Aussi.
Oui, mais c'est des faux huis clos, j'en sors moi. Lui, il en sort jamais. Hein. C'est un vrai. Lui, il respecte le genre à fond. Hein. Donc, moi, je le fais semblant de le respecter, mais je me crée des espaces, des respirations. Je truande un peu le genre quand même, moi. Mais c'est vrai que c'est un modèle de réussite, ce 12 hommes en colère. La partition est géniale, la mise en scène est géniale, les acteurs sont super. Il y a un truc mathématique comme ça, de les voir tous basculer l'un après l'autre, etc. Donc, c'est vraiment un modèle du genre. Toi, t'as des trucs ?
Non. Bah je crois pas me tromper si je parle pour mes petits copains, partenaires, camarades du film. Aucun de nous n'a eu envie et surtout besoin de se documenter. Déjà parce que c'est pas la méthode de travail de Jeanne. Moi, je la connaissais, sa manière de faire, mais tout le monde la connaissait pas. Et c'est vrai qu'elle nous apporte une matière première qu'est son écriture, son scénario, ses dialogues, ses situations, ses personnages, qui sont déjà tellement riches et tellement pleins qu'on n'a pas... envie et besoin d'aller chercher de la matière ailleurs. Et puis, voilà, Jeanne est très présente et on peut compter sur elle. Et c'est tout ce dont on rêve quand on commence un film, de pouvoir complètement s'appuyer sur l'épaule de notre metteur en scène et pas devoir aller chercher à droite, à gauche de la matière ou de l'inspiration qu'on n'aurait pas trouvé dans le scénario et dans la manière de travailler.
Et Jeanne, vous en parliez tout à l'heure sur le fait que l'équipe allait découvrir le film demain. Typiquement, pour vous, ça va être intéressant, parce que vous avez déjà pu voir le film terminé ?
Oui.
Ah, oui.
Parce que les acteurs l'ont vu.
De découvrir l'autre pan de l'histoire, vous avez l'impression de redécouvrir un peu le film, au final ?
Ah oui, ça c'était merveilleux, parce que évidemment, on avait tous lu l'histoire, on avait absolument conscience de ce qui se passait de part et d'autre de ces rencontres et cette médiation. Mm-hmm. Mais on se disait, Jeanne pouvait me dire voilà comment ça s'est passé aujourd'hui dans le cercle et tout ça. Donc j'étais très curieuse et j'avais hâte de découvrir. Et quand on a vu le film, quand j'ai vu le film, on était au cinéma, quoi. Et on se l'est tous dit après, c'était vraiment génial de passer de l'écriture à la fiction. Et à la magie de la fiction, en fait.
De découvrir le travail des autres. Moi, j'ai senti les acteurs, les actrices hyper contents de découvrir le travail des autres, ouais.
Et le film, vous avez pu le présenter, on en parlait juste avant l'enregistrement, dans une belle tournée province. Quel retour vous avez eu du public lors de ces différentes présentations ?
Bah, de ce qui nous revient aux oreilles et de ce qu'on a senti, c'est très positif. Après, je sais très bien que ceux qui n'aiment pas, ils ne viennent pas me le dire, donc je ne sais pas.
C'est moins courant.
Ou alors c'est vraiment des gens qui sont très en colère, j'en sais rien. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui nous est revenu. Ce qui était très touchant pour nous, c'est qu'on sentait globalement quand même les gens émus, touchés par le film, interpellés aussi, intéressés par cette justice restaurative et tout ça. Et que c'est vrai que c'était l'opportunité, toutes ces avant-premières, de faire venir à chaque fois des gens du milieu pénitentiaire, des associations d'aide des victimes, des professionnels de la justice restaurative. Et ça, je pense qu'il y a quand même une adhésion assez massive des gens de la justice restaurative qui se sentent compris, qui se sentent respectés et qui peuvent dire c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est ce qu'on vit. Ça, c'est ma vie. Ça, je l'ai déjà vécu. Ça fait beaucoup de bien parce que je sais déjà qu'on va être en contact avec des gens qui vont dire ouais, ça nous étonne vraiment que ça se passe vraiment comme ça. Donc là, c'était génial parce que j'avais une salle où des gens pouvaient se lever et dire bah, moi, je suis victime, j'ai participé à des rencontres détenues victimes, bah, je peux vous dire que ça se passe comme ça. Et voilà, moi, c'était super de sentir leur adhésion. On était touchés de leur enthousiasme et du fait qu'ils y voient aussi l'opportunité de faire mieux connaître leur travail et que ça prenne enfin cette justice restaurative.
Je verrai toujours vos visages s'inscrire dans une espèce de continuité après Pupille, après votre premier film, Elle l'adore, qui lui était plus un thriller. Je ne sais pas si c'est le terme...
C'était bizarre, hein, c'était le cul entre deux chaises, ce truc.
mais justement, aujourd'hui, forcément, on est toujours vous êtes dans la promo du film et dans sa sortie imminente, mais vous pensez déjà à l'après ou à la prochaine étape?
Oui, même si j'ai la tête dans le guidon, oui. Mais c'est drôle parce que vous dites le mot thriller, mais moi j'ai l'impression d'avoir écrit trois thrillers, vraiment. Voilà, un thriller normal avec des policiers, un cadavre et tout ça. Un thriller affectif avec... en tout cas, moi, je travaille toujours sur la tension. C'est vrai que ça m'intéresse de faire un truc où les spectateurs sont actifs, qui se posent des questions, qui sont... Voilà,
ça demande une implication du public pour profiter à fond.
Ouais. Mais parce que moi j'adore ça, comme spectatrice, vraiment j'adore ça. Donc c'est vrai que c'est des films qui me touchent. Je suis à fond avec les personnages et il y a un travail sur la tension, sur le rebond, le fait de faire rebondir les choses, pas forcément là où on s'attend à les voir rebondir et tout. Mais pour le film d'après, je m'interroge beaucoup parce que je me dis qu'il faut que j'aille ailleurs. Voilà, il faut que j'arrête. D'être la réalisatrice des services sociaux et des travailleurs de l'État, même si j'ai le plus profond respect et amour, et pour moi, c'est vraiment mes héros, je me dis qu'il faut que j'aille voir ailleurs, ouais, mais je ne sais pas où.
Et peut-être pour terminer, je sais qu'ils ne vous le diront pas, mais vous avez en face Robin et Lisa qui viennent de la région sud, et ils ont beaucoup apprécié le fait que ce soit tourné à Aix-en-Provence.
On a reconnu quelques plans,
film. Robin en particulier.
Vous avez raison. On a tourné là-bas, mais parce que aussi la justice restaurative, elle a des points chauds comme ça, des points dynamiques dans toute la France. Pas beaucoup, mais quelques-uns. Et les plus dynamiques sont dans le sud de la France. C'est vraiment Avignon, Montpellier. Donc pour moi, c'était important de. Voilà, j'avais tourné à Brest pour tourner Pupille. Là, elle est passée quelques jours dans le sud. Pas loin des gens qui m'ont renseigné, qui ont été très très généreux avec moi quand j'ai fait ma documentation, c'était important.
Jeannery, Élodie Bouchèze, merci beaucoup.
Merci à vous
d'avoir été avec nous. Je verrai toujours vos visages, ça sort cette semaine au cinéma. Et on va revenir maintenant sur deux autres films qui font l'actualité cette semaine en salle, à commencer par Shazam, La Rage des Dieux, un film à découvrir chez Pathé en IMAX, en 4DX et en Dolby Cinema. C'est un film de David F. Sandberg, comme le premier film d'ailleurs, avec toujours à l'affiche Zachary Levy, rejoint par une ribambelle de nouveaux acteurs, mais on vous en parle dans quelques instants.
J'ai vraiment rien dans le crâne.
It's showtime!
Franchement, je mérite pas ces pouvoirs. Qu'est-ce que j'apporte de plus? Il y a déjà un super-héros en costume rouge avec un éclair sur le torse. Il y a Aquaman qui est hyper baraqué, super viril. Batman qui est trop cool. Et moi, je suis que moi.
Soyons clairs, soyons honnêtes. Shazam, La Rage des Dieux, on ne l'a pas vu.
Et non,
on n'a pas encore eu l'occasion de le voir.
On n'a pas eu l'occasion encore de le découvrir sur grand écran. Mais qu'est-ce qu'on peut vous dire et qu'est-ce qu'on peut attendre surtout de ce nouveau film? C'est la suite directe du premier Shazam sorti il y a quelques années. Toujours, donc, comme on le disait, avec le même réalisateur et le même acteur titre, Zachary Levy. C'est la suite des aventures donc, de Billy Batson, un ado capable d'invoquer un espèce de super-héros en criant Shazam. Enfin, d'invoquer Shazam en criant donc son nom.
Exactement, qui est choisi en fait par le sorcier incarné par
Jimon Hounsoune.
Merci, je cherchais son nom.
Oh là là, la sécurité, ah ouais, incroyable.
Totalement. Je savais que je pouvais faire confiance à Lisa pour le rattraper.
Moi, pas du tout, parce que je ne l'avais pas. Donc tu as bien fait de ne pas me regarder.
Donc voilà, il est choisi par ce sorcier pour incarner ce super-héros. Ce qui était sympa dans Shazam, et je pense qu'on va le retrouver aussi, c'était le point de vue finalement qui était celui des enfants. parce que ça reste des enfants qui se transforment.
C'est ce qui avait marqué dans le premier film.
Donc il y avait vraiment un aspect comédie familiale qui, même si ça appartenait au même univers que Man of Steel, Batman v Superman, avait ce côté un peu plus, certains diront, plus formule Marvel peut-être, mais en tout cas plus familial, plus coloré.
Plus tourné vers l'humour.
Tout à fait, que ces films-là. Et je pense qu'on va retrouver un peu cette même formule dans le deuxième film, avant donc la fin de l'univers DC classique qu'on connaît actuellement.
Mais ça, on va y revenir dans un instant. Shazam, la rage des dieux, c'est aussi l'occasion du coup d'accueillir tout un nouveau panel d'actrices, en l'occurrence.
Ouais.
Je sais que tu as envie de parler de quelqu'un en particulier, Lisa.
Je crois que oui, j'ai envie d'en parler. Mais non, en gros, on a Lucy Liu qui arrive, on a Rachel Zegler qu'on a vu dans West Side Story de Spielberg récemment.
Et que nous verrons cette année aussi dans Hunger Games.
Et qu'on va retrouver dans cette grosse franchise Hunger Games, le prequel.
Qui a joué et qui sortira donc bientôt dans Blanche-Neige et les Sept Nains.
Tout à fait,
la nouvelle adaptation live de chez Disney.
Exactement.
Mais donc, celle...
La vraie star dont tu voulais parler, bien sûr. Dont je veux vraiment parler. Non, c'est Hélène Mirren qui tourne depuis quelques années dans des grosses franchises. Moi, je sais que ça m'avait beaucoup étonnée quand on l'avait retrouvée dans Fast and Furious.
Dans plusieurs films, en plus.
Elle reste vraiment un personnage récurrent de la franchise, et même si elle se limite à des caméos. Et là, pour le coup, elle va incarner, d'après ce qu'on sait, l'antagoniste du film aux côtés de Lucy Liu.
Une déesse, visiblement.
Une déesse, tout à fait.
Alors, déesse, ou comme elle s'appelle, les filles d'Atlas, si je ne me trompe pas, peut-être les enfants des déesses et des dieux en question dont on parle dans le film. On verra. Tout ça est sous réserve qu'une fois qu'on le voit, peut-être qu'en l'écoutant, on se dira « Ah, on a dit n'importe quoi
ah, !» Précision, en tout cas, on reconnaît bien là la patte de séance tenante. Vraiment sur l'exhaustivité des informations fournies sur les films. Mais voilà, Shazam, la rage des dieux, c'est aussi l'un des derniers films au cinéma de DC Comics, dans la façon dans laquelle on connaît, du moins.
Dans ce qu'on appelait le Snyderverse. Voilà. Qui était initié par Zack Snyder à l'époque de Man of Steel.
Parce que c'est vrai que le rapport entre le Snyderverse, donc entre ce qu'on connaît de l'univers DC Comics au cinéma et Shazam, se cantonne à la fin de Shazam, où, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a ce plan où Shazam est à la cantine, je crois, de son collège ou de son lycée, et d'un seul coup, il y a Superman qui arrive, sauf qu'évidemment, Superman est cadré au niveau du bus, donc on ne voit pas sa tête, donc on ne savait pas si c'était vraiment Henry Cavill, parce qu'Henry Cavill, en tout cas, n'avait pas pu venir.
Alors, pas pu tourner. Ou pas été invité, voilà. C'est un peu la question.
On saura un jour, probablement, mais en tout cas, bref, donc il y avait en tout cas Superman dans Shazam, parce que la blague, c'était, on se connaît entre super-héros. En tout cas, cet univers DC tel qu'on le connaît arrive visiblement à sa fin cette année, puisque donc on a Shazam, la rage des dieux qui sort là au cinéma, puis The Flash
et Aquaman aussi.
Il y a Aquaman et le Royaume perdu en toute fin d'année, et entre-temps, il y a donc ce
Blue Beetle, on en avait parlé, je crois, déjà lors d'un dernier épisode, où on ne sait pas trop si ça va être dans l'ancien univers DC ou dans le nouveau, parce que pour ceux qui peut-être ne sont pas au courant, DC a été repris par James Gunn, le réalisateur à qui on doit Les Gardiens de la Galaxie ou le dernier Suicide Squad. Et
donc,
Peter
travaille des deux côtés.
C'est ça, c'est le seul qui arrive à travailler chez les deux. Et que bon, c'est...
Et le pire, c'est que ça marche très bien.
Et donc, Peter Safran, qui est lui plus le financier, un peu qui va s'occuper de toute la partie.
Production, quoi.
Exactement. Donc, on a le créatif, le financier. Ils sont à la tête de DC Films. DC Studios.
Et donc, ils ont devant eux un espèce d'énorme coffre à jouets.
C'est ça, et ils veulent, ce qui est normal aussi. On sait que les films DC ne marchent pas forcément, et surtout, je pense que le public est un petit peu perdu dans cet univers qui veut à la fois être partagé comme l'est le Marvel Cinematic Universe. À côté de ça, on a des projets indépendants comme The Batman, comme Joker, qui viennent peut-être... induire un peu en confusion le public.
Et on l'a encore vu récemment avec Black Adam.
Tout à fait.
Dans lequel, bon, on peut le dire maintenant, Superman apparaît à la fin.
Et là, c'est bien Henry Cavill.
Sous les traits d'Henry Cavill, on le voit, il part, il bouge, donc c'est bien lui.
Après, je pense que même les studios ne savent pas vraiment ce qu'ils font, parce qu'il y a eu un deal avec Henry Cavill qui a été finalement avorté il y a quelques semaines.
Suite, visiblement, à cette sortie de Black Adam, qu'il a été décidé de se dire « cette fois, c'est bon ». On arrête.
Mais ce qui est fou, c'est que apparemment, c'était vraiment l'initiative de The Rock de faire venir Henry Cavill, de montrer qu'il était à nouveau là en tant que Superman. Et quelques semaines après, arrive la nomination de James Gunn, Peter Safran. Et eux, on peut le comprendre, ils arrivent à la tête de quelque chose qui ne marche pas comme Warner voudrait que ça marche.
Parce que grosso modo, ils rêvent de faire un Marvel bis
aujourd'hui. Alors, je ne sais pas s'ils veulent vraiment faire la même formule que Marvel.
Alors, peut-être pas la Marvel.
Mais en tout cas, avoir une marque forte avec des personnages qu'on retrouve
facilement
régulièrement.
Voilà. Identifiable, mais ce qui n'est plus trop le cas aujourd'hui.
Je trouve ça légitime parce que, comme on disait tout à l'heure, si James Gunn arrive à convaincre tant les fans de Marvel que les fans de DC, en fait, je pense que c'est peut-être la personne la plus légitime pour faire ce genre
probablement.
De choses.
Probablement. Et je pense quand on voit ce qu'il a fait sur Suicide Squad et sur Peacemaker,
la série,
série qui sont deux super productions super héroïques, et qu'on voit ce qu'il fait chez Marvel sur les Gardiens. Là, il y a les Gardiens 3 qui sort début mai. On a très hâte de le voir et on en parlera bien sûr longuement ensemble. On peut être que très impatient.
En fait, je pense que c'est quelqu'un qui sait s'adapter aux matériaux de base qu'il va adapter, justement, qu'il va mettre en scène. Donc, il y a ce côté très drôle avec les Gardiens de la Galaxie, ce côté très gore avec Peacemaker. Et je pense qu'il va vraiment convenir, laisser la place aux artistes aussi dans l'univers DC. Et donc, ce nouvel univers DC commencera avec... au cinéma en tout cas, avec Superman Legacy.
Et c'est donc James Gunn qui va le réaliser, ce film.
Tout à fait, il va l'écrire et ça a été confirmé qu'il va le réaliser.
À la base, c'était pas confirmé qu'il le réaliserait.
Après, je pense qu'il le savait.
Oui, je pense qu'il avait peut-être envie de le faire.
Un effet d'annonce aussi, mais c'est une bonne chose. J'ai très hâte de voir ce qu'il va faire.
Ouais, donc James Gunn à l'écriture et à la réalisation du reboot de la saga Superman. C'est The Superman
ou Superman Legacy.
Superman Legacy. Ah oui, The Superman, c'est les pronos qu'on s'était fait.
C'était, je crois, oui.
Un peu comme ce qu'on
avant l'arrivée de James Gunn.
Avant l'arrivée, en mode on refait quelque chose à la The Batman en l'occurrence.
Ça serait intéressant qu'on en parle un peu plus parce qu'il y a aussi ce côté où The Batman va continuer mais ne sera pas dans la ligne principale que James Gunn va initier. Après, je pense que les histoires de multivers ont beaucoup aidé pour
que
le public
dire.
Se dise « Ok, on peut avoir deux Batman,
si
on peut avoir... »
voilà.
Mais je pense que The Flash va être déterminant, je pense, pour la suite.
The
Flash qui est considéré, que James Gunn n'arrête pas de vendre étant le plus gros film de super-héros de l'histoire et le meilleur.
Apparemment, ouais.
Donc, à voir, parce que je pense qu'il a le nez dedans.
Voilà, c'est ça. Peut-être que The Flash, en tout cas un peu ce qu'on entend, va servir justement à rebooter même l'univers DC, ou en tout cas...
Peut-être à fermer un espèce de multiverse.
Ou alors à faire émerger une nouvelle temporalité différente où tout est à écrire. Je m'attends peut-être à quelque chose comme ça. On verra cet été.
Beaucoup de si et de possibilités, mais sachant que nous n'avons même pas vu Shazam, la rage de Dieu. Donc alors, autant vous dire que parler de The Flash
et d'Aquaman
et de Superman, donc on a un peu de la marge. En attendant, donc Shazam, la rage de Dieu, c'est à découvrir cette semaine au cinéma, en IMAX, en 4DX et en Dolby Cinéma. Uniquement pour une semaine, dans tous ses formats, puisque la semaine d'après, il y aura l'arrivée de nos amis les Mousquetaires et Mario, quelle belle semaine, du 5 avril, mais ça, on en reparlera en temps voulu. Et en quelques mots, revenons sur une autre des sorties de cette semaine, c'est The Lost King, un film de Stephen Frears avec Sally Hawkins et Steve Coogan.
J'ai une idée en tête. J'ai fait tout un tas de recherches. Toutes les informations dont j'ai besoin pour le trouver sont à ma portée. Je suis sûre que je vais le trouver, moi.
Trouver qui ?
Ben Richard.
Quel Richard ?
Richard III.
Le roi ?
On peut revenir en quelques mots, Lisa, parce qu'on l'a vu tous les deux. The Lost King, Stephen Frears donc revient à la réalisation après des grands films qui ont marqué l'histoire du cinéma.
Oui.
Liaison dangereuse, The Queen.
Exactement, on lui doit
Passion,
quand même...
Passion, Hélène Mirren.
Encore Hélène Mirren, décidément. The Lost King, c'est... Alors, je dirais que ça n'a pas l'envergure que pouvaient avoir les films qu'on vient de citer, mais ça n'en reste pas moins un très joli film qui est inspiré d'une histoire vraie. Sally Hawkins incarne Philippa, l'anglais, qui est en gros celle qui a aidé à découvrir l'endroit où était enterré Richard III. Ce que j'ai bien aimé dans le film, en fait...
Parce que le truc, c'est que, voilà, on ne savait pas où était enterré... sépulture était totalement inconnue.
Exactement.
Et donc le film raconte l'histoire incroyable de comment elle a réussi à retrouver.
Ouais, exactement. Mais justement, en fait, c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est un peu le côté chasse au trésor qui est hyper prenant. Il y a quand même pas mal d'émotions parce que ça reste Sally Hawkins, donc on sait la palette d'émotions qu'elle peut dégager.
Petit jeu, Sally Hawkins, qu'on connaît de...
De la forme de l'eau, principalement, je dirais.
Paddington.
De Paddington, évidemment. Je sais que t'as un attachement. Moi, j'ai l'attachement Hélène Mirren, toi, c'est Paddington.
Non, moi, j'ai Paddington et sa marmelade et son petit chapeau.
On a les références qu'on mérite.
Waouh. Allez, on enchaîne. Steve Coogan, qu'on connaît du Tour du Monde en 80 jours.
C'est en tout cas, c'est un très joli film. C'est aussi un film sur la reconstruction et je pense le besoin d'indépendance, finalement. Et le besoin peut-être d'être reconnue, d'avoir une certaine réputation. Et c'est ce qu'elle cherche, elle, et c'est ce qu'elle cherche avec cette quête de Richard III. Avec aussi un petit soupçon d'humour à l'anglaise qu'il ne faut pas oublier, et c'est bien amené.
Et moi, ça me faisait penser à The Duke, qu'on avait vu l'année dernière dans le premier épisode du podcast. Mmh. Souvenez-vous, pour ceux qui sont là depuis le début. ce genre de comédie anglaise, alors à duo, pas vraiment, puisque... Mais c'était pas Hélène Mirren, d'ailleurs, dans The Duke ?
Encore une fois, c'est pas possible.
Mais tout est lié depuis.
Donc là, le multivers.
Vous êtes Brendan Fraser aux Oscars ou Jonathan Cohen dans Le Flambeau ?
C'est ça.
L'un n'empêche pas l'autre. Mais je trouve qu'il y a cet esprit-là qu'arrive à nous offrir le cinéma anglais de ce genre de film. Alors, c'est pas vraiment une comédie pour le coup, The Lost King, mais dans la richesse des histoires de leur patrimoine, ils arrivent à nous raconter. Alors, c'était une histoire vraie aussi sur The Duke, The Lost King, c'en est une autre. Mais voilà, c'est un film à découvrir cette semaine au cinéma. Tout comme un autre film dont on peut parler rapidement, c'est Bonne Conduite, c'est un film de Jonathan Barré avec Lorca Lamy, Checky Cario et... le duo du Palmachot, David Marsay et Grégoire Ludig. Alors, c'est pas vraiment présenté comme un film du Palmachot, même s'il y a le réalisateur titre du duo, même s'il y a le fameux duo. Ils sont accompagnés, comme je disais, de Lorca Lamy et de Checky Cario. C'est une espèce de mélange entre un thriller et de la comédie. Ça se passe en Bretagne, donc bref, si Gaël nous écoute, il sera ravi. J'espère qu'il pense à nous... depuis ces plages où le vent vient frapper les rochers tout en mangeant de très bonnes crêpes.
Attends, on s'y croirait là.
J'ai la caution bretonne, je suis à 50% breton, donc je peux me le permettre. Bref, avant de terminer cet épisode en beauté et changer de sujet, parce que la Bretagne, bien sûr, c'est exceptionnel, mais reparlons en un mot de Je verrai toujours vos visages. Pourquoi faut-il aller voir Je verrai toujours vos visages cette semaine au cinéma, Robin ?
Pour la spontanéité qui se dégage des échanges entre les personnages.
Parfait. Lisa ?
Moi, je dirais pour la captation des huis clos, qui, même si elle le dit dans l'entretien générique, elle a des respirations dedans, je trouve que c'est très bien mené.
Et je terminerai par sa distribution, que je trouve assez dingue. Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos, Miu Miu. Je trouve qu'ils sont vraiment extrêmement touchants, sans tomber dans le pathos, dans le larmoyant. Et je trouve ça très très fort. Eh bien, nous avons fait le tour de ce riche programme du 29 mars. On se retrouve la semaine prochaine pour vous parler des Trois Mousquetaires, dans un épisode un petit peu spécial, mais vous aurez l'occasion de l'écouter dès mardi prochain. Merci Robin.
Merci beaucoup Alexis.
Et merci Lisa.
Merci Alexis.
Prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma.